Écoutez, c'est un plaisir de pouvoir être de retour et de pouvoir de nouveau ouvrir la parole de Dieu. Et merci pour ce bon repas, pour cette bonne communion fraternelle et ces chants. J'ai demandé, je ne connais pas votre nom, vous êtes Sylvana. Sylvana, que ce chant israélien, je n'avais jamais entendu. Nous, on revient d'Israël, on a fait un voyage en Israël en tant qu'église. Et ça, j'aimerais bien qu'on l'adopte dans notre église. Donc, si je pouvais l'avoir, ce serait vraiment super. Mais il est très, très beau. Et c'était impressionnant de vous entendre tous chanter. Donc, merci pour cela. Voilà, mais écoutez, alors cet après-midi, nous entamons la deuxième partie de nos messages sur la grâce. Donc ce matin, on a essayé de comprendre ce qu'est la grâce. Et cet après-midi, première partie cet après-midi, c'est de savoir comment partager la grâce. Partager la grâce. Et donc, je propose deux choses. Ce que j'aimerais faire en premier, c'est de vous raconter mon histoire, mon témoignage. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que mon témoignage, je vais le mettre en parallèle d'un texte biblique que nous allons voir tout à l'heure. Dans Acte 8, c'est la conversion de l'eunuque éthiopien. C'est un de mes textes préférés dans le livre des Actes. Et vous allez voir comment ces deux choses vont se jumeler pour ensuite, j'espère, nous montrer, nous donner vraiment des points hyper pratiques sur comment témoigner. Alors, si vous êtes comme beaucoup de gens, témoigner vous fait très peur. Alors, on va essayer d'un petit peu dissoudre cette peur cet après-midi et vous montrer que tout le monde peut témoigner et que Dieu peut vraiment nous étonner. Mais là, je vais un petit peu trop vite, donc en premier, je vais m'incliner, prier et demander que le Seigneur nous guide cet après-midi dans le partage de sa parole. Seigneur, c'est un privilège encore de pouvoir venir et ouvrir la parole qui est inspirée, la tienne. Seigneur, nous voulons te demander cet après-midi de nous lancer un défi. Tu vois, on est peut-être fatigué, on vient de manger, mais que, Seigneur, nous soyons vivifiés par ta parole et que nous puissions l'assimiler dans nos cœurs. Seigneur, que ton esprit nous illumine et nous aide à comprendre ce que tu veux nous comprendre et surtout que nous puissions comprendre ton cœur pour l'évangélisation, Seigneur. Et tu vois que partager l'évangile n'est pas toujours facile, mais je te demande de nous encourager cet après-midi et que tu reçoives toute la gloire. Et nous te remercions maintenant au nom de Jésus. Amen. Voilà, mais écoutez, alors on va reculer un petit peu, je vais vous raconter mon histoire et vous allez voir comment tout cela se marche, d'accord, ok. Alors voilà, moi je suis né en 1956 à Paris, alors je recule un petit peu plus loin que cela, mes deux parents sont américains, mon père est du Colorado, ma mère du Oklahoma, et mon grand-père avait une société de filtres, voilà, un peu technique, mais mes parents sont venus en Europe à cet âge-là, à cette époque-là, pour vendre ce filtre aux bases, ici en Europe. Et donc, ils ont atterri à Paris. Moi, je suis né en 1956, et trois mois après ma naissance, mes parents ont déménagé à Genève. Et donc, moi, j'ai grandi à Genève pour les premiers 15 ans de ma vie. J'étais américain, mais dans le contexte suisse, c'est pour ça que je parle anglais et français à peu près pareil. Alors, j'étais pas du tout chrétien. On avait une vie très américaine. Quand on rentrait, là, on est dans un petit village suisse. Alors, notre maison était typiquement suisse, mais aussitôt qu'on rentrait dans la porte d'entrée, on avait une maison très américaine. Et c'est comme ça que ma vie a été vécue ces premières années. Alors, à l'âge de 15 ans, mes parents, on n'était pas du tout religieux. C'est-à-dire qu'on allait à l'église américaine de Genève. C'était l'église épiscopalienne, on y allait parce que plutôt c'était là où les Américains se réunissaient à l'époque. Et moi je me rappelle d'une chose dans l'église épiscopalienne de Genève, c'est le café, du super bon café. J'ai jamais entendu l'évangile de ma vie dans cette église, ni à Genève, pendant toutes ces années que j'ai vécu là en tant qu'enfant. À l'âge de 15 ans, mes parents ont décidé que je devais partir à l'école, donc faire un internat. Donc je suis allé dans une école qui s'appelle Aiglon Collège dans les Alpes. Ça, c'était sympa parce que on était obligé, imaginer, de skier tous les jours. Ça, c'était vraiment difficile. Bon, voilà, il fallait que quelqu'un le fasse, donc c'est moi qui a fait. Donc ça, c'était 2 ans. Et de là, mes parents m'ont envoyé dans le New Jersey, aux États-Unis, pour découvrir mon pays. Et là, j'étais dans un internat de garçons. Ça, c'était pas très top, mais bon, c'était comme ça. Et après cet internat, donc quand j'ai terminé mes études de lycée, je suis allé à l'université de Syracuse au nord de New York. Et là, j'ai entamé ma carrière universitaire. Alors, mon père était homme d'affaires, moi je pensais être homme d'affaires aussi. Donc, j'ai regardé un jour un plan et je me suis dit, il faut que j'apprenne les langues. Donc, je connaissais l'anglais français, il fallait que j'apprenne l'espagnol. Donc, j'ai fait une licence en langue et littérature espagnole et une sous-licence en business. Et moi, j'allais être homme d'affaires avec l'idée de faire mes millions. Ben, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Ma première année, j'ai vraiment vécu, je suis rentré dans une sorte de vie de débauche. J'avais des longs cheveux, queue de cheval, beaucoup de hashish, beaucoup de drogue. Voilà quoi, je m'éclatais comme beaucoup de gens qui avaient mon âge à l'époque. Et après ma première année universitaire, je commençais à ressentir dans mon cœur un vide. Il y avait un truc qui allait pas, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je savais pas ce que c'était. Alors j'avais beaucoup d'amis, je m'éclatais, mes études, à peu près, ça allait, quoi, c'était pas la cata. Mais il y avait un truc en moi qui allait pas. Et donc, ce qu'on fait souvent aux États-Unis, c'est qu'on peut arrêter l'université pendant un an, faire quelque chose et ensuite revenir. Donc, j'ai décidé d'arrêter l'université un an. Mes parents ont trouvé ça super. Donc, j'ai quitté l'université en 76 et je suis rentré à Genève. Et là, j'ai travaillé pendant un mois dans un restaurant, etc. Mais ça, c'était sympa pendant quelques jours. Puis ensuite, j'ai réalisé, ça, c'est pas à moi, quoi. De servir du poisson, là, devant le jet d'eau à Genève, c'était sympa, mais c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et il y avait un truc que je voulais vraiment faire, c'était de voyager. J'aimais voyager. Habitant en Suisse, on était vraiment à côté de la frontière, avec mes parents, on voyageait beaucoup. Moi, je voulais aller faire mon gros voyage solo, tout seul. Alors, mes parents ont dit, très bien. Alors, j'ai pris toutes mes économies et j'avais, à l'époque, c'était 3 dollars par jour. C'était dans les années 70, d'accord? 3 dollars, c'est pas grand-chose aujourd'hui. Je sais même pas si on peut acheter un café pour 3 francs en Suisse, c'est pas possible. C'est plus. Donc, bref, alors j'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de partir à l'aventure. Donc, j'ai pris un sac à dos, j'ai mis le nécessaire qu'il fallait, vêtements, passeport, ce qu'il me fallait, quoi. Petit sac à dos. Et le 23 juin 1976, je vais à la gare de Cornavin à Genève, tout seul, et je monte dans le train et je pars. Alors, je vais vous dessiner la carte comme ça avec mes mains. Si vous regardez la carte, le premier mois, pour moi c'était clair, je voulais aller au soleil. Donc, je suis parti le 23 juin 1976, premier mois, Suisse, Allemagne, Autriche, Hongrie, Roumanie, Yougoslavie, Grèce. Ah ouais! Ah, des îles magnifiques, soleil radieux. J'avais un objectif, bronzer. Voilà. Alors, imaginez, moi, bronzer. Oui, c'est possible, d'accord? Je sais, ça paraît dans le miracle, mais c'est vrai. Et là, j'ai passé 6 semaines en Grèce. J'ai choisi 6 îles, d'accord? Et à l'époque, on pouvait dormir sur la plage, vraiment faire ce qu'on voulait. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai rencontré plein de gens. Et puis, voilà, je vivais une vie libre, plutôt de débauche, pendant ces 6 semaines. Alors, d'un côté, je m'éclatais. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces 6 semaines d'éclatement ou d'éclatage, je sais pas comment on dit, dans mon cœur, il y avait un vide récurrent qui revenait. Et je ne savais pas quoi faire avec ce vide. Et j'ai rencontré un gars, il m'a dit, John, il faut aller en Israël travailler dans un kibbutz. J'ai dit, j'y vais. Alors, je suis allé en Israël. Et je vais au kibbutz Bet Hashita, entre Afula et Bet Shean. Et là, le lendemain, à 4h du matin, je suis en train de cueillir des olives en Israël. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà cueilli des olives en Israël. Je vais vous expliquer comment ça marche. Ils vous donnent un panier. Ils vous le mettent autour de vous. Vous allez dans l'arbre. Bon, maintenant, c'est automatique avec des machines. Mais à l'époque, c'était à la main. Qui a déjà trait une vache? Très bien. Alors, vous seriez des bons cueilleurs d'olives, d'accord? Parce qu'on va dans l'arbre et on trait les branches et les olives tombent dans le panier. Et là, on descend, on met dans le tonneau, on remonte et on fait ça toute la journée à partir du 4 heures du matin. Alors ça, c'était super pendant 3 jours. D'accord. Et là, j'ai réalisé, c'est pas mon truc, quoi, de cueillir des olives en Israël. Alors, j'ai duré 3 semaines, je suis parti. Et je suis allé à Jérusalem. Et c'est là où le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie. J'ai pris un guide, c'est matinal, j'ai pris un guide et ils m'ont dit, John, il faut aller au... ils m'ont pas dit John, mais le guide m'a dit, il faut aller au jardin du tombeau. Et le jardin du tombeau, c'est un des 2 endroits où on pense que Jésus a été enterré. Alors je suis le premier, je frappe à la porte, tac, ils ouvrent la porte, je suis tout seul dans le jardin. Je rentre dans le jardin, j'ai le guide, et tac, devant moi, le tombeau de Jésus. Alors moi, j'étais pas croyant vraiment, mais alors là, ça m'a... Je me suis dit, c'est quand même dingue, quoi, le tombeau de Jésus. Alors, je garde le guide et je vais dedans le tombeau. Et là, je suis à l'intérieur du tombeau de Jésus. Je regarde, c'est vide. Et là, j'ai eu des frissons sur tout mon corps. Je suis sorti, Je vais un peu plus loin. Golgotha. Golgotha, c'est l'endroit où on l'a crucifié. Et on voit encore le crâne là. Et là, il y avait une plaque qui disait, c'est ici qu'on a crucifié Jésus. Et là, j'ai commencé à pleurer en sanglots comme un bébé. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ai séché mes larmes, je suis parti, je suis resté en Israël encore un mois, je suis descendu dans le sud, et là j'ai rencontré un gars, il m'a dit « John, si tu veux vraiment comprendre le but de la vie, il faut aller en Asie. » J'ai dit « Super, j'y vais !» Alors j'ai quitté Israël, je suis retourné en Grèce, j'ai pris un train jusqu'à Istanbul en Turquie. Alors si vous regardez de nouveau la carte, ça c'est l'Europe, ça c'est l'Asie. Il y a un pont entre l'Europe et l'Asie, ce pont est à Istanbul. À l'époque, il y avait beaucoup de voyageurs qui allaient à droite et à gauche. Donc j'arrive à Istanbul, et là il y a des monstres parkings. Et dans ces parkings, il y a des bus, des jeeps, des voitures, toutes sortes de véhicules qui vont à droite et à gauche. Là j'ai vu un gros bus bleu qui disait « Voyageurs pour l'Inde, $40 ». Je me dis « Waouh, ça c'est l'affaire du siècle ». Alors, je ne savais pas où était l'Inde, j'étais acheté une carte. Et ensuite, j'ai dit, j'y vais. Alors, j'ai payé $40 et pendant 6 semaines, on a fait la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, jusqu'en Inde. Alors, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de drogues. On s'est fait arrêter en Afghanistan, à Herat. On nous a menacé de la prison et ça, c'était confisquer les passeports. Pour drogue, donc, on s'est fait arrêter. Et là, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je pensais que j'allais terminer le reste de ma vie dans une prison afghane. Pas recommandé. D'accord ? Et là, par miracle, ils nous ont laissé partir. On est arrivé en Inde, et une fois qu'on est arrivé à New Delhi, tous mes amis, parce qu'il y a beaucoup de drogue en Afghanistan, en Iran, interdit. Et une fois qu'on est arrivé en Inde, tous mes amis ont commencé à sortir des seringues, héroïne et tout ça. Et moi, j'ai eu très peur. Et je me suis dit, mais John, ça, c'est pas toi, quoi. C'est pas vraiment toi. Mais je ne savais pas qui j'étais. Donc j'ai quitté le bus. Ça faisait 5 mois maintenant que j'étais parti de Genève. Et là, maintenant, je suis à New Delhi, tout seul. Je me promène à New Delhi. Et en plus, maintenant, il y a non seulement la solitude, tout ce que je vivais, tout ce que je ne comprenais pas, mais en plus la pauvreté maintenant. Et je me rappelle un jour, j'étais à New Delhi, il y avait un lépreux dans la rue. Et donc, je me sentais très coupable devant ce lépreux. Je me posais toutes ces questions. Mais pourquoi moi? Pourquoi je suis né où je suis né? Pourquoi j'ai la famille que j'ai? Pourquoi lui? Enfin, toutes ces grandes questions existentielles, je ne comprenais pas trop. J'ai essayé de lui donner des roupies, de l'argent indien, puis je ne pouvais même pas le regarder. Et je suis parti. Alors là, j'étais vraiment culpabilisé. Et je voyais que vraiment, j'étais confus, mais intrigué en même temps. Et je me suis dit, bon, moi je rentre. Moi, je rentre. Donc, j'ai acheté un billet d'avion. J'avais toujours assez d'argent pour un billet d'avion. Et le lendemain, je rentrais à la maison. Je suis en train de me promener à New Delhi, sur la rue Janpat. Et là, en me promenant, j'ai vu un gars, un Hollandais, qui donnait des papiers à des gens. Ben, c'était un missionnaire. Et il distribuait des traités. On commence à discuter. Alors, il était assez marrant. Il avait des cheveux jusqu'à là. Ce n'était pas tout à fait comme ça qu'on imagine les missionnaires. D'habitude, les missionnaires me ressemblent à moi. Cheveux courts, cravate, Bible, église. Ah, c'est pas trop. Hein, mais lui, c'était pas ça du tout. Alors, on commence à discuter. Il m'invite pour un coca. On va boire un coca. Super sympa. Je ne savais pas qu'il était missionnaire. Et à un moment donné, il me dit, John, est-ce que je peux te montrer un verset dans la Bible? Alors là, yikes. Alors moi, les chrétiens, bon, je les connaissais un petit peu à l'université. Comme je viens de le dire, les chrétiens, ils me ressemblaient comme aujourd'hui, mais alors pile poil, quoi. Et je me suis dit, ah non, ça, c'est pas du tout mon truc, quoi. Les Bibles, Église, tout ça. Non, non, non. Et ensuite, il me dit, mais John, ce livre est le best-seller de tous les temps. Aucun livre n'a jamais été aussi vendu que la Bible, jamais. Et encore aujourd'hui. Il m'a dit, tu devrais au moins connaître un verset dans le best-seller. Vous pouvez utiliser cette phrase si vous voulez. Hein. Excellent. Je me suis dit, ok. Ok, fatal. Il ouvre à Mike, Jean 3,16. Je n'avais jamais vu le verset de ma vie. Il lit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, qui merci? Il dit, John, est-ce qu'on peut analyser le verset? Alors là, j'étais super mal à l'aise, quoi, d'accord. Wow, qu'est-ce qu'on fait? Ok, fatal. Il dit, regarde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il m'a dit, que veut dire le mot monde? Moi, j'ai dit, alors, t'en vas, monde veut dire monde. Il a dit, c'est bien. Donc, j'étais encouragé, d'accord? Car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'il aimait les Indiens, les Chinois, les Allemands, les Russes, les Péruviens, les Congolais et John. Il a dit, car Dieu a tant aimé John. La flèche dans mon cœur. Car Dieu a tant aimé John, je suis un petit peu mal à l'aise, qu'il a donné son fils unique. Il me dit, c'est qui? Le fils unique? Ah. Et là, flashback en Israël. J'avais été dans le tombeau de Jésus. J'avais été debout à Golgotha. Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son fils Jésus, mort et ressuscité. Et là, c'était comme, mes amis, c'était comme si les paroles de ce livre ont jailli de la page dans mon cœur et dans mon esprit. Et là, tout d'un coup, c'était du réel. Car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il m'a dit, John, regarde. La Bible est claire, il y a deux choix. Tu peux rejeter Jésus-Christ. Tu peux rejeter son sacrifice pour toi. Tu peux dire, non, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, ça ne m'intéresse pas. Tu peux faire ça. Si tu fais ça, il ne te pardonnera pas tes péchés. Et il ne te donnera pas la vie éternelle. La Bible dit que tu périras. Moi, je me rappelle une fois, il y avait un film avec Clint Eastwood. Il était dans les airs, il n'y avait plus d'eau. Alors, il était dans le sable, puis il périrait. Moi, quand je pense à périr, je pense à ça. Quelqu'un qui est en train de, vraiment, il est assoiffé. Bien sûr, ce verset parle d'une coupure éternelle d'un Dieu saint et d'un Dieu d'amour, les peines éternelles. Il m'a dit, John, tu périras, tu iras en enfer, c'est ce que la Bible dit. Mais, car Dieu a tant aimé John qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Christ, si tu le reçois comme ton sauveur et ton Seigneur, si tu te repens, tu dis, prends mes péchés, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te pardonner ton péché et te donner la vie éternelle. Il te lave tous tes péchés, passés, présents, futurs, et il t'accorde instantanément la vie éternelle pour l'éternité. Et le jour où tu meurs, tu passeras l'éternité dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors là, j'ai eu la trouille. Je me suis levé, je suis sorti. Le gars, il m'a suivi. Dans la rue. Absolument vrai. Il m'a dit, John, il m'a tourné, il m'a dit, John, c'est ta dernière chance. Maintenant, tu as besoin de croire en Jésus-Christ et d'être sauvé. Et vous savez, je savais que j'étais pécheur, je savais qu'il avait raison, je savais que c'était vrai, je savais. Et là, dans la rue, le 2 novembre 1976, j'ai baissé ma tête. J'ai dit, Jésus, bon, je me rappelle très bien, il y avait des vélos, des vaches, c'était l'Inde, quoi. C'était un petit peu comme un film, il y a poussière. Mais là, j'ai baissé ma tête, j'ai dit, Jésus-Christ, si vraiment c'est vrai, j'avais un petit doute, hein. Mais si c'est vrai, j'ai rien à perdre. Si c'est vrai, rien ne se passera. Mais si c'est vrai, si c'est faux, rien ne se passera. Mais si c'est vrai, tout va changer dans ma vie. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il va ôter mon péché et il va m'accorder la vie éternelle. Ça veut dire que le Dieu de l'univers va envahir mon petit cœur. Et ça devrait être visible quelque part, non? Alors j'ai baissé ma tête, j'ai dit, Jésus-Christ, si tu peux me sauver, fais-le maintenant. Et à cet instant, mes amis, je ne peux pas vous le prouver, il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu d'éclair, il n'y a pas eu de nuage. Mais à cet instant, le Dieu de l'univers a envahi mon cœur. Et à cet instant, il a pris tout mon péché, passé, présent, futur, et il l'a ôté. Psaume 103 nous dit qu'il a pris mon péché, il l'a jeté aussi loin que l'Orient et de l'Occident. Il m'a accordé à cet instant la vie éternelle. Et mes amis, je le savais. Je savais que ma vie venait d'expérimenter une révolution. Je savais que ce Jésus-Christ que je n'avais pas vu, qu'on m'avait parlé étant ressuscité était maintenant en moi. Je lui ai dit merci et au revoir. Je n'ai plus jamais revu ce gars de ma vie. Je suis reparti à mon hôtel. Une demi-heure plus tard, je suis dans mon hôtel. J'étais sur un toit, je dormais pour environ 50 cents par nuit. C'était vraiment moins 3 étoiles, d'accord? Et là, j'arrive, j'ai 2 paquets de hashish dans mes poches. J'ai une demi-heure dans le Seigneur. Et là, je vois tous mes amis en train de fumer ensemble, en train de s'éclater. Je regarde ça, je dis, mais c'est stupide. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas fumer du hashish. En fait, il n'y a pas un verset qui dit ça. Mais dans mon cœur, je savais que je n'avais pas besoin de ça, c'est une drogue. J'ai pris mes 2 paquets de hashish, je les ai donnés. Ils étaient super contents. Hein. Mais moi, j'étais 2 fois plus content qu'eux. J'étais libéré, quoi. C'était libération. Incroyablement, avant de partir des États-Unis, je jouais un petit peu de piano et une amie à moi qui était flûtiste était évangélique. Alors, je n'aimais pas les évangéliques, mais elle jouait du jazz avec moi. Alors, elle était super sympa. Et le jour où je partais pour mon voyage, elle est venue dans ma chambre. Elle a trouvé sur mon bureau une petite Bible Gédéon que quelqu'un m'avait donnée le jour où je suis arrivé à l'UNI. Elle m'a dit, John, écoute, prends cette Bible. Elle l'a mis, j'avais des salopettes, elle l'a mis là, tac. Elle m'a dit, prends la Bible avec toi, tu la liras jamais, on ne sait jamais. J'ai dit, ok, j'ai mis dans mon sac à dos, j'ai quand même oublié. Et ce jour-là, 5 mois plus tard, je me dis, waouh, j'ai une Bible dans mon sac à dos. Alors je vais creuser, tac, je la trouve. Je sors ma petite Bible et je commence à la lire. Et là, mes amis, c'était comme de la nourriture. C'est comme si j'avais jamais mangé de ma vie. Et là, je commençais à lire. Alors, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour à l'époque. Hein. J'avais beaucoup. J'avais 40 cigarettes par jour. J'ai arrêté et je me suis dit qu'au lieu de fumer des cigarettes, j'allais maintenant lire un chapitre du Nouveau Testament pour chaque cigarette non fumée. Ouais, t'allais voir. Je lisais 40 chapitres par jour. C'était incroyable. Mais c'était super. Alors le lendemain, maintenant, je prends l'avion parce que je vais rentrer. J'ai un jour dans le Seigneur. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce gars, j'ai aucune idée aujourd'hui qui il est. Alors pour moi, c'est le plus grand défi pour nous évangéliques. Cet homme, écoutez très bien ce que je vais dire. Il a pris 5 minutes. Un verset, il avait un petit peu de courage. Je répète, 5 minutes de temps, un verset et un peu de courage. Ça a bouleversé ma vie. J'ai pris l'avion le lendemain, je suis à côté d'un monsieur, moi j'ai un verset, Jean 3,16, ma petite Bible. Là, j'ai envie d'expliquer ça à quelqu'un. Alors, je ne savais pas comment expliquer. Je tourne à ce monsieur. Je dis, écoutez, monsieur, car Dieu a tant aimé le monde, donc vous, qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui, donc vous, vous ne périssiez point, donc vous n'irez pas en enfer, mais vous irez au ciel, la vie éternelle. Qu'est-ce que vous pensez? Le gars, il était musulman. Ah. Alors, le gars, il me dit, Inch'Allah, je ne sais pas trop ce qu'il disait. Alors là, je me dis, aïe, 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 c'est peut-être pas aussi facile qu'on peut l'imaginer, quoi, d'accord? Alors, je descends de l'avion à Bombay, et là, je suis dit, je suis pas prêt à rentrer, et je vais à Goa, dans le sud de l'Inde, je raccourcis l'histoire, et en descendant à Goa, je rencontre des missionnaires, et ils m'invitent à venir vivre avec eux pendant un mois, et donc, je vis avec eux pendant un mois, et pendant ce mois, ils commencent à m'apprendre des versets, m'expliquer comment je dois expliquer des choses aux gens, puis après un mois, je dis, voilà, je suis prêt, je rentre. Alors, je suis rentré à Genève. Et mes parents se sont dit, aïe, 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 quoi. Notre enfant, il part d'ici hippie, drogué, il revient Jesus fanatique, d'accord? Alors, ils se disent encore une phase, voilà, mais cette phase, elle dure depuis 35 ans. Donc, celle-là, je crois qu'elle va durer, d'accord? Mais mes parents n'ont pas trop compris au début, mais ensuite, ils ont réalisé que c'était vraiment quelque chose d'authentique, que le Seigneur avait vraiment transformé ma vie. Alors, je rentre à New York, maintenant, à mon école, à mon université. Et là, je connais pas de chrétiens, alors je sais pas quoi faire. J'appelle l'opératrice au téléphone, je lui dis, bonjour, écoutez, est-ce que vous connaissez des chrétiens? Elle me dit, attendez, je regarde. D'accord, elle cherche des chrétiens, elle me dit, oui, alors il y a toutes sortes de chrétiens. Alors elle me donne une liste d'églises, mais ensuite des groupes universitaires. Et donc là, j'étais les visiter tous, et j'ai atterri sur Campus pour Christ, donc Agapé France, Agapé, je sais pas comment on appelle eux ici, Campus pour Christ, parce qu'ils avaient les 4 loi spirituelle et ils aimaient l'évangélisation. Et moi, je voulais annoncer l'évangile de manière simple à quelqu'un. Et donc, pendant 3 ans, ils m'ont formé. J'ai terminé mes études, mais là, j'ai réalisé après mes études que c'était pas du tout ce que je voulais faire, quoi. Je voulais pas être businessman comme mon père. Je voulais apprendre la Bible. Et donc, maintenant, je savais pas trop comment faire pour aller dans le ministère, faire mes études. Et donc, il me fallait un travail. Et il y a une compagnie aérienne qui engageait des stewards et des hôtesses de l'air. Donc, alors, je suis devenu steward avec la compagnie Pan Am, basée à New York. Et c'est là où j'ai rencontré mon épouse, qui, elle, était hôtesse de l'air, qui, elle, s'était convertie au Japon à l'âge de 16 ans. Bref, on s'est rencontrés. On a volé pendant une année. Et après, donc, la compagnie avait des problèmes. Donc, moi, j'étais licencié. J'étais tout content. Et je suis parti à Los Angeles pour faire mes études de théologie. Et là, j'ai fait une maîtrise en théologie. Mon épouse est venue un an plus tard. On s'est mariés. Et donc, de là, maintenant, j'avais un désir. C'était de retourner à Genève. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai grandi à Genève. Et j'ai jamais entendu l'évangile une fois dans ma vie. Et j'ai demandé au Seigneur si je pouvais retourner à Genève un jour pour là prêcher et annoncer l'évangile. Et le Seigneur, ça fait 25 ans qu'on est missionnaire maintenant. On était 10 ans à Paris, dans l'organisation qui s'appelle l'AEI. C'est là où j'ai rencontré Egbert, il y a des années en arrière. Et là, depuis 15 ans, nous sommes à Genève. J'étais 11 ans dans le groupe qui s'appelle l'Action Biblique. Et là, depuis 4 ans, on a démarré une toute nouvelle église à Genève qui s'appelle l'Église Évangélique Internationale de Genève. Et je suis vraiment content et reconnaissant au Seigneur que nous sommes à Genève et que là, je peux continuer à annoncer l'Évangile dans cette ville très païenne, comme je pense c'est le cas ici en Bruxelles. Amen. Ouais, c'est ça. Ah, écoutez, alors, donc ça, je voulais vous raconter cette histoire parce que j'aimerais maintenant la mettre en parallèle avec notre texte. Donc, prenez vos Bibles et allons à Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Et j'aimerais vous montrer ce récit absolument passionnant et je crois que vous allez vraiment être encouragés par rapport à l'évangélisation. D'accord ? C'est vraiment le but ici, comment partager la grâce. Alors j'aimerais lire ce texte et ensuite on va le parcourir très rapidement, mais j'espère qu'il va être poignant. On va lire à partir de Actes 8 et le verset 26. D'accord ? Actes 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine de l'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait est celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement est élevé, et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Et Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, comment partager la grâce de Dieu ? Ce texte nous révèle 3 ingrédients, très simple, 3 ingrédients que Dieu utilise pour amener une personne à lui. Il faut comprendre ces 3 choses et je pense que ça va nous encourager. Numéro un, il faut la préparation du messager. Il faut la préparation du messager. Voyez-vous, avant que l'évangélisation, le ministère ainsi peut arriver, Dieu doit trouver le bon messager. Imaginez, je vous pose une question. Est-ce que Dieu aurait pu Par exemple, faire que l'évangile soit annoncé tous les jours par des nuages. Est-ce que Dieu pourrait réarranger les nuages et écrire Jean 3,16 par exemple par des nuages dans le ciel? Est-ce que Dieu pourrait faire ça? Oui. Est-ce qu'il le fait? Non. Est-ce que Dieu pourrait la nuit, par exemple, s'il n'y a pas de nuages, réarranger les étoiles pour écrire Jean 3,16 qui clignote? Est-ce qu'il pourrait faire ça? Est-ce qu'il le fait? C'est dommage, quelque part, c'est ce qu'on pourrait dire. Pourquoi pas? Eh bien, je vais vous y répondre, c'est parce que ce n'est pas son plan. Son plan, Jésus le dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et il dit ça à ses disciples. Il dit « Disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Le plan de Dieu, c'est d'annoncer que des hommes annoncent l'Évangile. Vous connaissez certainement Romains 10, c'est le verset 13 qui dit ceci, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Voyez-vous, le plan de Dieu a toujours été que des hommes apportent l'Évangile aux hommes. C'est comme ça. Ok. Alors déjà ça, on l'a compris. Mais quel genre d'homme ou de femme veut-il envoyer? Eh bien, je pense que Philippe est un exemple brillant du type de personne que Dieu veut utiliser. Alors, pour comprendre qui est cet homme, il faut reculer un petit peu dans Actes 6, parce que c'est ici qu'on découvre cet homme. Alors, vous vous rappelez tout simplement, Jésus mort, ressuscité, il est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu dans Actes 2, des milliers de personnes se convertissent, il y a beaucoup d'excitation dans la ville, et là, dans cette expansion fulgurante de l'Église, il y a un problème où certaines veuves hellénistes sont négligées dans la distribution de nourriture. Vous connaissez certainement le texte dans Actes 6. Et alors, les apôtres choisissent des hommes clés pour s'occuper de ce problème. Et un des sept, ça on va au verset 5, dans Actes 6, un de ces sept hommes, c'est donc notre ami Philippe. Il dit au verset 5, « Cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, saint, Philippe, etc. » Donc Philippe, c'est le deuxième. Alors qu'est-ce qu'on apprend de lui? Quel genre d'homme était-il? Ben, écoutez, on l'a ici. Premièrement, il avait une bonne réputation. Il avait une bonne réputation parce que quand ils ont présenté le problème à l'Église, l'Église a choisi des hommes qu'il connaissait et parmi ces sept était Philippe. Donc il avait une bonne réputation comme l'avait Étienne, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, etc. Donc ceux qui sont listés dans le verset 5. Alors la question c'est quoi une bonne réputation? C'est très simple. Une bonne réputation c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Ça c'est une bonne réputation. Alors qu'est-ce que les gens disent de vous lorsque vous n'êtes pas présent? Donc ils avaient une bonne réputation. Deuxièmement, il était rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Il dit au verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez-vous pour vous sept hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint. » Donc, bon témoignage, rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que leur vie est contrôlée par Christ et par cet Esprit. L'Esprit est Saint, donc leur vie est sainte. Le fruit de l'Esprit est visible dans leur vie. Il vit une vie dédiée au Seigneur. Ensuite, ils sont remplis de sagesse, verset 3. Il est rempli de sagesse. Alors, c'est intéressant, vous savez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand un enfant a un bon comportement, on dit quoi en français? Ah, qu'il est sage. Pourquoi on dit ça? Parce que la sagesse, souvent, on dit « Ah, il est sage, c'est un savant ». Non, la sagesse, alors en français ça marche très bien, en anglais moins bien, en français c'est très bien. Un enfant sage, c'est un enfant qui obéit ce qu'il sait, il doit obéir. La sagesse, c'est l'application des vérités connues. Et donc ici, lorsqu'on voit qu'il est rempli de sagesse, c'est un homme qui vit vraiment la foi. C'est un homme de Dieu. Il vit ce qu'il prêche, il vit ce qu'il dit. On le regarde, on dit voilà, ça c'est un homme irréprochable dans sa foi. Ensuite, il est soumis. Lorsque les apôtres proposent cet homme, il est approuvé par eux. Verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, il est soumis Et je dirais qu'il est même très humble. C'est intéressant. On dit, voilà, écoutez, il y a un super ministère dans l'église, on a besoin de volontaires, allez servir des repas aux veuves. C'est pas très flash comme ministère. Mais il le fait. Il est humble. Il est d'accord de servir dans les petites tâches. Voilà comment il s'est fait une réputation, cet homme. Et c'est très intéressant, chapitre 8, versets 1 à 3, c'est un homme de la parole. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, chapitre 8, verset 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Devinez qui est le premier sur la liste de ceux qui vont annoncer la parole. Philippe, verset 5, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Résultat. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Dieu lui a donné le don des miracles en plus, car des esprits impurs sortirent et plusieurs démoniaques. Ils poussaient des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Waouh ! Cet homme, non seulement est un homme de Dieu, non seulement est-ce qu'il était d'accord de travailler dans des ministères simples et pas très flash dans l'église, mais c'était un homme de la parole, un homme qui connaissait l'évangile, qui n'avait pas peur de l'annoncer. Moi, je me rappelle quand je faisais ma formation aux États-Unis, moi, je voulais partir hier. Je voulais être missionnaire, je voulais venir en Europe. Je voulais prêcher l'évangile, et mon pasteur m'a dit, John, écoute, très bien ce que je vais te dire. Si j'avais 5 ans à vivre, je me formerais pour 4 ans et je partirais pour 1 an. Et là, j'ai été sidéré. Parce que moi, j'aurais dit l'opposé. Moi, j'aurais dit, j'ai 5 ans à vivre, je me forme 1 an, je pars 4 ans. Ouais. Et après 2 ans, c'est à Qatar. Cet homme était formé. Alors maintenant, alors ça c'est l'arrière-plan. Maintenant, on est chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur cherche quelqu'un pour amener un homme au Seigneur au milieu du désert. Qui va-t-il déployer ? Philippe. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. » Mais tout à l'heure, Philippe, il aurait pu dire, « Mais attends, Dieu, tu te trompes. Écoute, j'ai un ministère florissant à Césarée, en Samarie. Les gens sont en train d'être guéris, l'évangile est prêché, il y a une grande joie dans la ville. Maintenant, tu me déploies au milieu du désert. » Est-ce qu'il répond comme ça ? Non. L'ange du Seigneur s'adresse à Philippe et lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem et Gaza, celui qui est au désert. » Verset 27, « Il se leva et partit. » Clac ! Super. Alors, Dieu, premièrement, a besoin d'un messager. J'ai souvent pensé à cet homme hollandais qui se trouvait sur la nuit de Jan Path à New Delhi, le 2 novembre 1976. Quel était son parcours qui a fait que ce jour-là, il était là, pour moi? Cinq minutes. Un verset et un tout petit peu de courage. Il était là pour moi. Je vous pose une question. Si Dieu avait besoin de quelqu'un aujourd'hui, au plein milieu de quelque part, perdu en Belgique, pour amener quelqu'un à Christ, est-ce qu'il vous choisirait ? Est-ce que vous êtes prêt, un messager prêt à être déployé? Philippe l'était. C'est intéressant, le défi, je trouve. 2. Il faut trois ingrédients pour que l'évangélisation se passe. Un, il faut le messager. Deux, il faut la préparation du receveur. Bien sûr, il y a un messager qui est déployé. Mais maintenant, il faut un receveur. Il faut que quelqu'un reçoive l'évangile, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Eh bien, c'est ce qu'on rencontre ici. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cet homme, l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien? Qu'est-ce qu'on apprend de lui? Eh bien, on apprend plusieurs choses. Regardez verset 27, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque. Alors, premièrement, on apprend qu'il était éthiopien. Du pays de Nuba, qui est aujourd'hui Égypte-Soudan. Ensuite, on apprend qu'il était eunuque. C'était un homme castré, et c'est lui qui, c'était une garantie sexuelle pour s'occuper des harems. Donc, à la base, c'était ce qu'il était. Mais maintenant, regardez, on apprend qu'il était membre du gouvernement et haut placé. Il était éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. Donc, il était maintenant promu ministre des Finances. Donc, c'était un top homme du gouvernement. Probablement un homme très riche. Mais on apprend qu'il était aussi religieux parce qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Alors, il était probablement un prosélyte juif. Donc, il s'est converti au judaïsme et il venait pour les célébrations de la Pentecôte à Jérusalem mentionnées dans Actes 2. Et il avait voyagé une très longue distance pour être à Jérusalem. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il était en recherche. Écoutez, mes amis, il n'était pas sauvé. Il était converti au judaïsme, mais pas sauvé. On le sait parce qu'il se convertit ici. Donc, il n'était pas sauvé, religieux, mais pas sauvé. Je parie que vous connaissez beaucoup de gens comme ça. Mais il était en recherche. Là, c'est intéressant. Il était à Jérusalem pour adorer. Donc, il adorait Dieu, mais sans le connaître, apparemment. Et ce que je trouve absolument génial, c'est qu'il cherchait la vérité jusqu'au point de lire la parole de Dieu. Il avait une Bible, un rouleau d'Ésaïe, et là, il était sur son char. C'est vrai qu'il y a beaucoup de distance sur un char, ça prend du temps pour aller jusqu'en Égypte. Donc, il lisait le prophète Ésaïe. Et ce qui est dingue, c'est qu'il n'y comprend rien. Parce que Philippe lui demande s'il comprend, il dit, mais non, comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Et ça, mes amis, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime en tant que missionnaire. Parce que Dieu prépare les receveurs. Dieu prépare cet homme d'une manière étonnante. Quand on est arrivé en France, il y a 25 ans en arrière, on est arrivé dans un petit village qui s'appelle L'Arbrel, à côté de Lyon. Là, on a passé un an. Et on cherchait un logement. Et il y avait au plein centre de ce petit village une belle rue, c'était typique français. Il y avait une boulangerie, là, il y avait une enseigne qui disait « appartement à louer ». Donc, on est allé frapper, ding, ding, on est rentré dans la porte avec la petite sonnette. Puis, dans une boulangerie, oh là là, c'était super, d'accord. Et alors, on a dit, voilà, écoutez, bonjour, on cherche un logement et vous avez une enseigne. Alors, il y avait un boulanger typiquement français avec la toque, tablier blanc. Il dit, ah, bonjour. J'ai dit, qui êtes-vous? Alors, il me dit, écoutez, je suis John Glass, on est missionnaire, pasteur, je ne sais pas trop comment j'ai dit ça, et on cherche un logement. Et quand j'ai dit le mot pasteur, il a dit, ah! J'ai dit, ah! Il dit, ah! J'ai dit, ah! C'est assez marrant. Et il me dit, vous êtes pasteur? J'ai dit, oui, je suis pasteur. Protestant, oui. Évangélique, oui. Et il me dit, absolument vrai, Monsieur Glass, ma femme et moi venons de lire toute la Bible ensemble. Et on vient de la terminer il y a environ une ou deux semaines. Et ensuite, il m'a dit, on n'a rien compris. Et il me dit, pourriez-vous nous expliquer ce qu'il dit? Dans mon cœur, je faisais, waouh! Mais bien sûr, j'étais très réservé. Je dis, oui, probablement, nous pourrions envisager quelque chose. Waouh! D'accord. Non, mais c'était incroyable. Et mes amis, ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé qu'il y a des gens qui cherchent et qui sont préparés par le Seigneur partout. La Belgique est remplie de personnes qui attendent une chose, c'est que quelqu'un vienne, prenne 5 minutes, un verset, avec un peu de courage pour leur annoncer Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça, mes amis. Ils sont là, ils sont à droite, ils sont à gauche, ils sont dans les écoles, ils sont dans vos commerces, ils sont votre voisin, je ne sais pas, ils sont là, ils sont partout. Et ce qui est incroyable, alors ça, j'ai jamais compris pourquoi, Dieu a trouvé nécessaire de me prendre jusqu'à nous délits pour me convertir. Pourquoi ? Je devais être un gros cas pour Dieu, je pense, d'accord ? Mais écoutez, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Moi, il m'a préparé, il m'a cassé, il m'a brisé, il m'a montré une vie d'insatisfaction dans tout ce que je faisais, au point où ce jour, le 2 novembre 1976, j'étais prêt. Et ça, mes amis, ça mène au troisième point. Pour que l'évangélisation puisse avoir lieu, il faut en premier le messager, deuxièmement le receveur, et troisièmement, écoutez, il faut la préparation des circonstances. Et c'est là où Dieu reçoit tout le crédit dans l'évangélisation, les circonstances. Ce qui est absolument incroyable, c'est la suite de ce texte, ça va très vite maintenant. Il y a notre ami l'eunuque dans son char en train de lire son texte, il n'y comprend rien. Dieu voit tout ça. Il dit, écoute, Philippe, envoie un ange, l'ange du Seigneur lui dit, Philippe, viens, et il arrive, et juste au bon moment, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi du char. Alors Philippe, il ne sait même pas pourquoi il y va dans le désert, mais il obéit. Il est dans le désert, et là, j'imagine la scène, il y a le char avec toute la cohorte, tout d'un coup, Philippe, il apparaît, et il est dit, Philippe a couru, donc il court. Il arrive à côté du char et là, il commence à marcher à côté du char. Et il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Donc, il se calme, il écoute. Puis, il entend l'Éthiopien. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Donc, il lisait à haute voix, comme un agneau muet. Puis, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Ah, tiens, bonjour. Ben non, non, je ne comprends pas ce que je dis en fait, c'est ce qu'il dit au verset 31. Comment le pourrais-je si quelqu'un me guide ? Est-ce que vous pourriez m'expliquer ? Ah ben écoutez, ben oui, je peux vous l'expliquer. Ah ben écoutez, alors montez, c'est ce qu'il dit, montez, il invite à Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Non mais vous voyez un petit peu la scène, c'est incroyable. Alors maintenant, il monte dans le char, la place est vide. Il est à côté de cet homme et il lit le passage, verset 32 et 33. Et l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Maintenant, allez voir, ça c'est la question des questions. C'est ce qu'on attend tous, c'est que quelqu'un qui cherche nous dise, écoute, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, à partir des Écritures, m'expliquer Jésus ? Est-ce que tu pourrais m'expliquer Jésus ? Alors, moi je vous pose une question. Est-ce que vous pourriez expliquer Jésus à quelqu'un sans Bible, sans iPhone, sans iPad, sans Internet ? Utilisant que l'Ancien Testament, de mémoire. C'est ce qu'il a fait. Verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, à partir de l'Ancien Testament. Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Apparemment, dans sa présentation de l'Évangile, il a dit, quand tu croiras en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Et la première chose que tu devrais faire, c'est d'être baptisé par immersion dans l'eau. Ça, il l'a inclus dans sa présentation de l'Évangile. Il n'est pas en train de dire qu'on est sauvé par le baptême, il lui dit, pour prouver que tu es vraiment chrétien, il faut être baptisé. Donc, un chrétien non baptisé, c'est presque une contradiction de termes. Alors, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, l'eunuque dit, voici de l'eau, super ! Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fait arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Waouh ! Transformé, baptisé. La conséquence, tenez-vous bien. C'est le premier converti pour l'Afrique. Parce qu'il retourne en Afrique. Et c'est là, mes amis, où je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu a organisé pour ma vie un voyage jusqu'en Inde? Parce que lui veut tirer toute la gloire de ce qu'il a fait. Voyez-vous, l'évangélisation et le succès de l'évangélisation vient de Dieu. Dieu prépare le messager, Dieu prépare le receveur et Dieu prépare les circonstances. Alors la question que nous devons nous poser, si Dieu avait besoin de quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce qu'il choisirait? C'est pas compliqué, hein, franchement. Il ne faut pas être théologien. Il faut 5 minutes. Un verset. Et un tout petit peu de courage. Le gars qui m'a amené au Seigneur ne sait même pas ce qui s'est passé dans ma vie. Peut-être qu'il m'a oublié. C'est encourageant, je trouve. Si vous avez 5 minutes avec quelqu'un, vous dites, bon, moi j'ai que 5 minutes, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai qu'un verset, qu'est-ce que ça peut changer? Ça peut tout changer. Ça peut tout changer dans une vie. Jamais j'aurais imaginé que je serais pasteur aujourd'hui. Alors je termine avec une dernière chose. J'aimerais vous montrer si ça marche la petite vidéo dans 2 secondes, d'accord? C'est une illustration au cas où parfois vous êtes découragé. Alors on ne va pas encore la montrer, d'accord? On va attendre 2 secondes. Je vais expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Il y a peut-être 9 ans en arrière, 10 ans en arrière, je reçois un coup de téléphone un jour. Et il y a un gars au téléphone qui me dit, écoutez, monsieur Glass, est-ce que vous aimeriez être l'aumônier d'une équipe de hockey à Genève? J'ai dit, quoi? C'est une blague? Il a dit, non, c'est pas une blague. J'ai dit, mais écoutez, il n'y a pas d'aumônier dans les sports en Suisse, ça n'existe pas. Il a dit, oui, je sais. Mais il y a un chrétien américain très riche qui a acheté 6 équipes de hockey, donc Ligue A en Europe, dont Genève, et il veut des aumôniers évangéliques. On a fait des recherches, on vous a trouvé. Est-ce que vous aimeriez être l'aumônier? J'ai dit, ah, ça c'est vraiment la meilleure, quoi. J'ai dit, bah, moi j'aime bien l'évangélisation, je me dis, bon, c'est l'occasion de me retrouver dans un monde non chrétien. J'ai dit, je sais pas, il a dit, bah, va rencontrer le coach. Alors je suis allé rencontrer le coach, on a mangé ensemble, super contact. Il m'a dit, John, écoute, moi je peux apprendre à ces hommes, jouer au hockey. Mais s'ils vont mal un jour, s'ils ont un problème quelconque, moi je peux pas les aider, mais toi tu peux les aider. Puis il a dit, entre toi et moi, on va créer une équipe gagnante. J'ai dit, ouais, bon, d'accord, je sais pas, d'accord. Mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit, viens rencontrer les hommes. C'était là, j'avais tellement peur parce que moi j'y connais rien en hockey. J'ai dit, mais écoutez, vous avez pas le bon gars parce que j'aime pas le hockey. Enfin, je suis pas sportif. Ils ont dit, parfait. Il n'y aura pas de motif étrange. Moi, mon truc, c'est pas d'avoir ma photo prise avec un jour de hockey. C'est pas trop ce que j'aime dans la vie. Alors voilà, ils ont trouvé que c'était parfait. Alors je suis allé et là j'ai rencontré les joueurs et je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc j'ai dit voilà, je vais faire une étude toutes les 2 semaines sur un sujet quelconque et vous pouvez venir. Et si les joueurs sont intéressés, ils pourront venir écouter. Et j'aurais dit, moi, je vous enseigne ce que la Bible dit sur n'importe quel sujet que vous voulez. Alors, devinez combien de joueurs sont venus à la première rencontre. 0. Deuxième rencontre, j'ai fait beaucoup de pubs. 0. Troisième rencontre, 0. Je me suis dit, c'est pas la bonne méthode. D'accord? Alors, pendant 1 année, j'ai pris le courage d'aller dans le vestiaire après les matchs, juste dire bonjour aux gars et sortir. 1 an, juste pour me devenir confortable avec ça. 2e année, je commence mes études. Combien sont venus? 3 personnes. Waouh, succès. D'accord? 3, 2, 4, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, d'accord? Pas beaucoup. 3e année, je continue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'était la première fois en Suisse qu'il y avait ça, alors il y a tout d'un coup, les journaux sont venus parler, tout ça. Là, je vous montrais 2, 3 trucs assez marrants, parce que ça, vrai, je ne m'y attendais pas. Alors, la Tribune de Genève, c'est le plus grand journal à Genève. 1 page entière en couleur. Waouh! Regardez voir. Le foie au service du hockey, un aumônier à Genève-Servette. Pas mal. Je lui vois, c'est intéressant. Alors là, attention, là, ça va bouger, je me suis dit. Ensuite, alors, il y a d'autres journaux comme le Beobachter. Vous avez déjà entendu parler? Moi non plus, d'accord? C'est allemand, alors je sais pas. Là, ils ont fait 2 pages couleur. Waouh! Je me suis dit, ah, ça, c'est génial. Maintenant, les joueurs vont être intéressés. La télévision m'a appelé un jour. Est-ce qu'on pourrait faire un reportage sur vous pendant les infos du soir? Waouh, intéressant. Alors le coach a dit, ouais, vas-y. Alors je vais vous le montrer dans une seconde. En regardant ça, rappelez-vous, mes amis, ça fait 9 ans que je suis l'aumônier à Genève-Servette, ok. Devinez combien de gens sont venus au Seigneur depuis 9 ans que j'annonce l'évangile 2 fois par mois. Zéro. Zéro. L'évangélisation, c'est un travail de longue haleine. Mais je ne me décourage pas, parce qu'après ce message, je réalise, mais Tawar, oui, il y a le messager, moi je suis le messager. Dieu prépare le receveur et Dieu prépare les circonstances. Moi, j'attends le premier fruit dans le monde du hockey. Il n'est pas encore venu, je continue par la foi. Amen. Ça, c'est ce que le monde non-chrétien suisse a dit de ce reportage. C'est très court, mais c'est passé à la télévision, on va le regarder.
Unique en Suisse, les joueurs du Genève-Servette ont à leur disposition un aumônier, un pasteur. C'est plutôt rare en Europe, mais la fonction est courante dans les clubs d'outre-Atlantique. Et c'est justement le patron américain des Servettiens qui l'a imposé à la patinoire des Vernets. Le reportage d'Annelies von Bergen et Marilo Machala.
Il y a à peine 2 ans, cet homme ne s'imaginait pas pouvoir se passionner un jour pour des hockeyeurs. Mais depuis quelques mois, il ne rate pas un match des Grenats aux Vernets. Dans son rôle de conseiller spirituel, John Glass s'est attaché à ses professionnels de la glace.
Moi, j'aime beaucoup l'image de la bouteille. Moi, je me perçois comme une des bouteilles de ces joueurs, mais la bouteille spirituelle. Je m'impose à personne, mais s'ils ont soif, s'ils ont des questions et veulent parler avec quelqu'un, ils peuvent venir me voir.
Pasteur dans une église libre de Genève, John Glass occupe la fonction d'aumônier selon la volonté du patron américain du club genevois. Grâce à sa personnalité et sa présence discrète, John Glass s'est attiré la sympathie des joueurs et de l'entraîneur.
Jusqu'à présent, l'expérience est très positive. Personnellement, je ne vais pas au rendez-vous qu'il propose. J'estime que les joueurs doivent pouvoir y aller sans la présence de leur entraîneur. Mais je vois fréquemment John, joueur ou coach, on peut toujours avoir besoin de quelqu'un.
Tous les 15 jours, juste après l'entraînement, John Glass propose une rencontre d'environ 20 minutes. 5 à 6 joueurs y assistent régulièrement.
Donc moi je suis là pas pour essayer de faire le lien direct entre le hockey et la Bible, plutôt pour aider ces hommes qui pourraient avoir des soucis à savoir comment gérer et avancer dans la vie.
Moi c'est ma première expérience à ce point de vue-là, mais je pense que c'est assez bien et ça nous donne la chance de partager nos opinions avec quelqu'un d'autre d'un autre monde.
On parle du hockey comme de notre vie privée, du mariage ou de l'éducation des enfants. Je crois que c'est une bonne manière d'avoir un peu de religion dans sa vie.
Je comprends aussi tout à fait que certaines personnes puissent utiliser ces aides-là.
Vous-même, est-ce que vous en profitez ?
Non, c'est pour ça que je dis qu'en tant que ça reste libre, c'est bien. Je ne ressens pas le besoin ni d'aller vers un aumônier ni d'un psychologue.
Sport et religion, deux mondes a priori bien différents. Mais comme cette expérience le démontre, les préoccupations humaines vont bien au-delà des défis sportifs.
Voilà, c'est bon, merci.
Et on va terminer ce journal.
Voilà, donc en fait, alors, je représente la religion et la psychologie, d'accord ? Bon, bah, écoutez, je résume le tout. Ne nous décourageons pas, c'est l'œuvre de Dieu. Persévérons, et je résume le tout comme ceci. 5 minutes, un verset et un peu de courage. Seigneur, merci. Merci de nous déployer, Seigneur. Merci de nous préparer. Seigneur, aide-nous, aide-nous, reviens vite, au nom de Jésus-Christ. Amen.